Et bien sûr, c'est quand vous voulez, Monique, sur Radio Libertaire 89.4. Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître, et urbi comme orbi, sans sponsor ni publicité. Alors, pour vos cartes d'auditeurs, vos cartes de soutien, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire. Ça se situe 145 rue Amelot. C'est métro République ou Fille du Calvaire. C'est ouvert du mardi au samedi à partir de 14h la semaine, de 13h le samedi. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir. Le lundi 17, si tout va bien, puisque Monique a accepté de faire des heures supplémentaires, mais c'est... Rassurez-vous, on va lui offrir un billet pour aller aux Seychelles ou aux Baléares ou aux portes d'Aubervilliers, je ne sais pas encore, on verra bien, on trouvera quelque chose. Donc le lundi 17, on fera Aragon et la question coloniale, édition manifeste avec Anna Russio. Et le lundi 24, le surréalisme et la fin de l'ère Artaud avec Ilio Chahi et Virginie de Ricci. Aujourd'hui, on reçoit Triboulet. Monsieur Triboulet, bonjour.
Bonjour.
Vous allez avoir du boulot parce qu'il y a un texte de Rodenbach à lire.
Ah.
Il va vous concentrer. Parce que c'est un texte très gai, vous allez voir, c'est très très gai. On se poile à chaque ligne, à chaque page. Il y a aussi Claude Brabant pour le numéro 40.
De la
revue Empreinte. Alors, Claude Brabant est en progrès, je tiens à vous le dire. Maintenant, quand elle vient à la radio pour amener de la musique, elle amène non seulement la pochette, mais le disque à l'intérieur. Donc, c'est bien que... c'est une affaire de cœur, parce qu'il y a Jeff Sicard, jazzman magnifique,
ouais,
qui est venu avec nous improviser pendant très très longtemps.
Ouais,
là, il est parti pour un long contrat à Las Vegas, ça je l'ai déjà dit. Hein. Il venait ici avec ses instruments, sa conque marine aussi. On avait l'impression qu'il aurait pu faire de la musique avec une tringle à rideau.
Il
était capable. Et puis, c'est le seul qui faisait aussi de la musique avec son téléphone. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, quand on parlait, avec le téléphone qui marchait. Monique sautait en l'air. Et après, à la fin, on avait réussi à juguler quelque peu, mais c'était un péril. Et puis, malheureusement, nous avons M. Jacques Coda avec nous.
Pourquoi, malheureusement?
C'est entre lui et moi.
C'est l'habitude, il me présente toujours avec cette... Ce malheureusement qui m'introduit point de suspension.
Vous êtes venu, c'est pas la première fois que vous venez ici.
Je ne sais pas.
Vous avez trouvé de la lumière d'être rentré pour un livre Vita Nova.
Oui, écrit il y a 25 ans
et
édité il y a 4-5 ans. Voilà. Dont je me souviens plus du tout.
On se dédouane comme on peut. Hein, j'ai découvert que vous étiez à peu près le seul écrivain avec toute l'œuvre de Paul Kenny à votre chevet.
Comment savez-vous? Oui, c'est un auteur que je lisais quand j'avais... Je parle de Paul Kenny, quelque
part. Bien sûr.
C'est magnifique. Cet été, j'en ai acheté une vingtaine que j'ai retrouvées dans des...
Édition Fleuve Noir.
Oui, voilà, édition Fleuve Noir. Voilà.
Alors, on dit qui c'est, Paul Kenny, vite fait, c'est un
écrivain de ce qu'on appelait la littérature de gare, qui écrivait des romans d'espionnage au kilomètre. Et je crois que le héros s'appelait Copland, si je me souviens bien.
Voilà. Ce sont deux journalistes belges qui ont...
C'est ça, exactement.
Ça vous inspire, monsieur, ce genre de littérature?
J'en ai lu quelques-uns, mon père surtout.
Oui, c'est des années... Moi, j'étais môme, je disais ça, j'avais 10-12 ans. C'est pas les premiers bouquins que j'ai lus, mais presque.
Et je crois qu'on ne dira jamais l'influence dans l'inconscient de cette littérature-là.
Il y en avait beaucoup. Avant, dans les gares, sur les tourniquets. Et je lisais ça, moi j'étais en colonie de vacances surtout. Un peu en cachette de mes parents d'ailleurs, parce que quand même c'était un peu comme OSS 117 ou SAS. C'était quand même moins sexuel que SAS Copland.
C'est pas de la grande littérature noire, c'est pas celle de Simenon, c'est pas celle d'Hachette Lamet, etc.
Non, c'est prendre en dessous.
C'est vraiment le truc dans la manière. Parlant de littérature noire, Marcel Duhamel, je sais pas si ce nom vous inspire.
Oui, la série de
Il a créé la série noire, la Libération.
Absolument.
Il a écrit un livre qui fait à peu près 800 pages où il dit le titre c'est Ne raconte pas ta vie. Mais ça fait 800 pages, alors vous avez fait dans le modeste, là.
J'ai fait les fonds de tiroir. Vita Nova, ça signifie donc vie nouvelle, mais c'est la vie nouvelle pour des textes qui étaient enfouis dans une boîte à chaussures.
Un collage.
Voilà, il y a tout un truc sur le Tour de France.
On va commencer par là, oui.
Moi, je l'ai lu profondément.
C'est bien. Voilà,
ça m'a remplacé Paul Kenny, que je fréquente tous les matins aussi.
C'est moins bien que Paul Kenny, mais bon.
Ça m'a ramené à une phrase de Pierre McCorland qui dit « L'homme est une longue suite d'hypothèses et de nuances ». C'est magnifique, hein.
Magnifique, et ça correspond un peu à ce livre.
Ouais, tout à fait. Et ça m'a ramené aussi à mon ami qui était portraitiste et qui me disait, lorsque je fais un portrait, il y a trois éléments. Là, je vois que ça vous intéresse, là. Voilà, ça vous intéresse particulièrement.
J'ai fait quelques portraits.
Il y a un tiers, c'est le modèle.
Oui.
Il y a un tiers, c'est le peintre lui-même.
Oui.
Et le troisième tiers, c'est la synthèse.
D'accord.
Et moi, en vous lisant, là, monsieur Cotta, ouais. Je me suis dit, tiens, il y a sa vie, un tiers.
Ouais.
Il y a ce qu'il aurait voulu ou pu être.
Ouais.
Et puis après, il y a la synthèse.
C'est marrant ce que tu dis, parce que ça me fait penser à Belle-Mère aussi, qui travaillait un peu comme ça, si j'ose dire. Il y a deux structures chez Belle-Mère, ce qu'il appelle deux structures, et qui sont semblables, et qu'il met en relation pour en faire une troisième. C'est ce qu'il appelle la réalité de son dessin.
On va y arriver.
Chez Rodenbach, il y a ça aussi, entre la morte et la vivante. Il y a cette espèce de coalescence, pour employer un mot couillon, entre ces deux mondes. Voilà. Quant à Vinova, oui, c'est ça.
Et vous commencez, la seule date fixe, c'est 1965, l'année où Felice Gimondi a remporté le tour.
Voilà.
Ça, c'est vraiment le point de départ.
C'est le point de départ, parce que j'étais chez mes grands-parents, sans doute en vacances, et mon grand-père qui m'a offert ensuite un vélo de course pour faire du cyclisme, parce que c'est un... Je suis issu d'un milieu ouvrier où il y a peu de sorties, à part le football et le cyclisme, dans le nord de la France. Hein. Donc, en 65, il suivait le Tour de France à la radio, et moi aussi. Et ensuite, j'ai pris l'habitude un peu... C'était la radio, hein. il n'y avait pas la télé à l'époque. Et j'ai gardé l'habitude de la radio. D'ailleurs, ce livre est écrit avec la radio et non pas avec la télévision, en 96. Et c'est écrit sur le vif. C'est-à-dire, après chaque étape, j'écrivais sur l'étape. Voilà.
Donc, j'ai lu cette Vita Nova et je me suis dit... Alors, c'est peut-être une projection de moi, hein, puisqu'il y a des dessins de coureurs à l'intérieur aussi. Hein.
Oui.
D'accord. Et je me suis dit, tiens, il donnerait beaucoup, Jacques Coda, pour un jour se retrouver sur un vélo, gravir le Mont Ventoux, le Galibier ou l'Alpe d'Huez, lever les bras lever les bras au sommet pour connaître toute la gloire de l'instant. Moi, c'est ce que j'en ai tiré.
Ah oui.
C'est ce que j'en ai tiré.
C'est un de tes rêves, c'est pas le mien. Tu as un nom de grand cycliste, n'oublie pas.
C'est peut-être une projection de ma part.
Sans doute.
Bon, voilà, on va revenir sur
le vélo, tout ça.
J'ai découvert, je triche un petit peu, que vous aviez un ami commun ou une relation commune, tous les deux. Vous avez dans vos relations le kiné dans ce Belle-Mère.
Joseph. Ah oui, tu connais Joseph.
Ah oui, Joseph.
Et je vais faire un livre sur Belle-Mère avec lui dans une petite année.
Tu sais comment j'ai connu Joseph? Voilà. C'est au marché de la poésie. Il s'est planté devant mon stand et il m'a dit, je viens de faire tout le marché de la poésie, personne ne veut de ce que je propose. Je propose des dessins inédits de Belle-Mère.
Ils vont être édités.
Alors je lui ai dit, écoute, ça c'est formidable. Moi, Belle-Mère, c'est énorme pour moi.
Et tu as fait quelque chose dans l'empreinte avec lui.
Oui. Et donc j'ai mis les dessins inédits.
Absolument, voilà. Exact. Il me l'a donné.
Voilà, c'est les dessins qu'il m'a proposé. Il avait fait tout le marché, tous les éditeurs, ça n'intéressait personne.
Il est
oublié, Belle-Mère, dis-donc.
Belle-Mère est oublié, il est mal vu, un peu comme Picasso.
On va y revenir, c'est censé être un
satire.
Donc tu vas faire un livre, toi?
Oui, je vais faire un livre, justement, avec sa collection que je suis allé...
C'est un gros livre ou c'est...
Écoute, il y a beaucoup d'illustrations, parce que j'ai photographié toute sa collection. J'ai passé l'après-midi chez lui, que je connaissais déjà Joseph. Et ça faisait un moment qu'il me parlait de ce livre. Je l'avais aiguillé chez d'autres éditeurs, ça n'a pas collé. Donc du coup, je prends les photos. Il y a un texte d'un de ses amis qui est également kiné, en retraite, comme Joseph, qui écrit donc des textes anagrammatiques, comme Belle-Mère.
Ah ouais.
Donc, qui va être en regard des illustrations et des dessins et de la collection de Joseph. Et moi, je vais faire une préface. Voilà.
C'est dans ton livre fait chez Marest, Caméra Gréco, je crois, que tu
j'évoque la mort, suicide de Nicolas.
Tu peux
Oui, je crois que j'évoque ça parce que mon atelier, je suis peintre par ailleurs, et dans le 20e.
Malheureusement,
j'essaye de faire des portraits de temps en temps, comme celui qui est sur la couverture de Vita Nova, qui est un autoportrait d'ailleurs. Et donc, Belle-Mère avait un appartement rue de la Plaine, qui est au-dessus du Monoprix à Nation aujourd'hui. Au 6e étage. Et Unica était en psychiatrie et elle a une permission, une visite. c'est ça ? Voilà, ouais, c'est ça. Et elle vient le voir, ils discutent toute la nuit, et au matin, il est hémiplégique, hein, lui, il a fait un AVC dans un fauteuil. Elle profite de la descente, il y a une dame qui s'occupe d'eux, qui va faire des courses, donc cette dame va faire des courses. Et donc ils sont seuls tous les deux, elle passe dans l'autre pièce, elle ouvre la fenêtre, et elle se jette. Voilà. Ouais. Et la dame qui rentre ensuite avec les courses s'aperçoit, donc Unica sur le trottoir, et monte à prévenir belle-mère de ce qui s'est passé. Il était pas au courant, il avait quasiment rien vu. Lui, il était dans son fauteuil, dans son lit, je sais pas. Voilà.
Et c'est pour quand ce livre ?
Donc, une petite année, automne 2023, ou peut-être avant, selon. Parce que là, j'ai un programme, j'ai un livre par mois, et il y a beaucoup de gens.
Tu as dit qu'il avait mauvaise réputation. Il commence à avoir mauvaise réputation.
Il y a eu quelques livres sur lui.
Et je crois que c'est toi qui m'as dit qu'il était traité de sadisme.
C'est ça, de sadisme.
Et dans quel sens ça ?
D'avoir la poupée, les liens, les dessins, dans tout. Il est présenté comme un satire.
Et en plus, un peu sadique sur Unicazurne.
Oui, c'est ça.
On a dit ça.
Oui, parce qu'Unicazurne, il y a une phrase malheureuse qu'il aurait prononcée quand il l'a vue pour la première fois. Celle-là, je vais m'en occuper. Je ne l'ai plus en tête. En tous les cas, bon. Et ensuite, elle est présentée dans une. Il y a une exposition, elle est présentée nue, une exposition surréaliste, où elle est ligotée, ou je ne sais plus si elle est ligotée, d'ailleurs. Et bon, ensuite, bon, c'est l'époque aussi. C'est l'époque où Picasso est présenté également. Quasiment comme un pédophile, même par certaines ou certains. Et belle-mère aussi, comme un affreux bonhomme. Oui.
Par contre, tout le monde s'accorde pour dire que c'est un extraordinaire dessinateur.
Alors, c'est le Dureur de notre époque. Ouais. Ouais, c'est un dessinateur fabuleux et un graveur fabuleux.
Donc on peut trouver dans le numéro 34 déjà d'empreintes. Hein, alors ces dessins inédits de Hans Bellmer, réalisés sur les pages quadrillées d'un petit cahier, ils ont été communiqués par Joseph N., qui fut le kinésithérapeute et l'ami de belle-mère en 69 jusqu'à sa mort survenue en 75.
C'est ça.
Alors après, c'est très beau, parce que Joseph est également l'heureux possesseur des lunettes de belle-mère.
Oui.
L'une de ses cravates et du bracelet d'Unicazurne.
Et des ongles, et des ongles de pied et de main aussi. Il a fait un montage, il a encadré ça. Donc il y a les lunettes en haut et les ongles de pied en bas.
Il y a la cravate.
Tu as vu ça? Et donc, parce que c'est lui qui lui coupait ses ongles de pied, évidemment, qui le lavait, qui lui lavait les cheveux, qui s'occupait de belle-mère. En plus de faire de la kiné, il s'en occupait il était à sa dévotion, parce qu'il était complètement admiratif de belle-mère. Et Unica en parle de Joseph dans un bouquin. Elle dit l'élégant polonais, le kiné élégant. Parce qu'il est resté très élégant,
d'ailleurs,
Joseph.
Classe,
il est toujours en costume.
Ah oui,
très
bien.
La photographie de belle-mère, qui est dans l'empreinte de 34, est de Barbara Jackson. Elle date de 67. Belle-mère est photographiée sur le balcon de l'appartement qu'il occupait aux 4 rues de la Plaine.
C'est ça.
C'est de ces mêmes balcons que s'est jeté Unicazurne le 19 octobre 70.
C'est ça.
Hein, c'est donc dans l'empreinte 34.
Bravo.
Tu as une grande tradition dans ces empreintes. Tu vas chercher des gens qui sont un peu oubliés.
Ouais.
Généralement, c'est soit
pas oubliés, mais des inédits. Voilà.
Hein, c'est soit fin 19e, début 20e, le plus souvent.
Bah, c'est-à-dire que là, il y a un trésor de gens oubliés. Voilà.
On avait fait les gens du Chat Noir.
Oui, il y a tout le Chat Noir, il y a...
Rolina.
Voilà, tous ces gens-là.
Rolina,
Maurice.
Dervilly aussi. Ernest Dervilly.
Ouais.
Et là, tu as choisi... Rodenbach.
Voilà.
Hein, Georges Rodenbach.
Côté belge.
Voilà. Pourquoi tu m'as... on va se dire tu momentanément, oui. Ça vaut mieux. Tu m'as parlé de son cousin.
Ah, son cousin était graveur. C'était un artiste, donc je te demandais de quel Rodenbach il s'agissait, tout en sachant que c'était celui-ci. C'était un peu un chemin de traverse que je voulais que tu empruntes. C'était pour te perdre, mais tu avais pris des petits cailloux comme le petit pousset, tu t'es retrouvé.
Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle le symbolisme, des gens qui étaient en même temps mystiques, mais tout dévoués à la littérature, des gens pas drôles du tout, hein.
Non, des gens très sérieux.
Très sérieux, très sérieux.
Maeterlinck,
de Gourmont.
Oui.
De Gourmont, Maeterlinck, etc. Et pourtant, dans ce livre clé sur cette époque-là, ce livre du Bergevin, écrivain de l'avant-siècle, il révèle qu'il n'y avait pas plus drôle, il se marrait bien avec Rodenbach. Alors, tu vois le paradoxe. Donc là, tu as trouvé trois nouvelles.
Trois nouvelles extraites d'un recueil qui s'appelle Le Rouet des Brumes, qui n'a pas été réédité depuis son époque. Et tout le recueil, toutes les nouvelles ont comme thème la mort.
Oui. Voilà.
Donc, il y a des nouvelles comiques, il y en a qui sont moins. Voilà.
Les gens que je connais quelqu'un...
Bruges, là, Bruges la Morte, finalement, il n'y a pas grand-chose de Rodenbach qui a été réédité.
À Bruges la Morte, c'est constamment réédité.
Ça, c'est constamment réédité, mais le reste, non. Tu vois,
l'histoire de cette dame qui va hanter avec une chevelure très symboliste, tu vois, les chevelures rousses qui descendent jusqu'au sol, là, donc elle va mourir, il va identifier Bruges avec sa femme, et partout où il va, il y a les cheveux de cette dame, là. Ça, c'est un texte magnifique. Monsieur Triboulet, je sais que vous vous préparez à nous... Vous voulez bien, nous, non ?
Oh ben, quand vous voulez.
Allez-y, monsieur Triboulet, voilà. Ça s'intitule Curiosité. Allez, c'est très gai, je vous préviens.
Voilà. C'est très long aussi.
Si vous avez besoin, je vous donne un coup de main. Vous me ferez signe, d'accord.
Il y a souvent des ironies extraordinaires dans les destinées. Romain Gay était croque-mort avec ce nom jovial qui semblait le prédestiner à une existence de facétie et de bombance. Il appartenait à l'administration des pompes funèbres. Il est vrai de dire qu'il n'y occupait pas l'emploi le plus pénible, il était cocher de corbillard, ce qui vaut mieux que d'être un de ces valets funéraires occupés sans cesse à charger et décharger des cercueils comme des mâles dans la gare de l'éternité. Comment Gay avait-il abouti à cette étrange profession ? Orphelin et élevé dans un hospice, il fut placé à 15 ans dans une ferme de la banlieue dont on expédiait le lait chaque jour à Paris. Un an après, il avait appris à conduire et mener lui-même la charrette vers les crèmeries et les clients de la ferme. Mais c'était peu pour ses ambitions, il rêvait davantage. Il alla solliciter la protection du directeur de l'hospice, et comme celui-ci avait des relations puissantes, il lui proposa un emploi dans l'administration des pompes funèbres. Gay n'osait pas tant espérer. Il escomptait une place de cocher chez les personnes riches. Tout au plus, et c'était le plus hardi de son rêve, un poste de cocher dans l'urbaine ou une autre compagnie de fiacre, puisqu'il savait conduire et qu'il faut se choisir une carrière dans le sens de ses aptitudes. Mais ceci, cocher des pompes funèbres, entrer dans une administration aussi sérieuse, devenir en quelque sorte un fonctionnaire, un personnage de la préfecture et de l'État, et porter un uniforme, un costume dont le directeur lui avait dit qu'il datait de la Révolution française et fut dessiné par un peintre célèbre. N'est-ce pas David qui l'avait dit, ou un autre nom dans ce genre ? Gay exulta, plana dans son orgueil. Au début, il n'en revint pas d'être arrivé à une pareille situation, lui, pauvre orphelin, petit valet de ferme sans avenir. Il habitait Paris maintenant. Il touchait des appointements. Non pas un salaire, mais des appointements. Et il était beau. Certains jours surtout, quand il s'agissait d'un convoi de première classe. Debout sur son siège, drapé en emphatique, comme un trône, il régnait. Dans les glaces des devantures, il se regardait, se reconnaissait à peine, le bicorne en tête. « Je ressemble ainsi à Napoléon, » disait-il. Il s'admirait, avec sa vaste redingote aux draps mats, aux broderies d'argent, aux brandebourgs compliqués. Il luisait, attirait le soleil, resplendissait, et ses hautes bottes comme d'un conquérant. Les foules se rangeaient devant lui. Il voyait bien que tous les yeux convergeaient vers sa personne. C'est lui qui en imposait, communiquait au char cette majesté auguste, et le fouet aux manches d'argent dans sa main songeait comme un sceptre. Quand par hasard le convoi qu'il ouvrait avait à passer sous un arc de triomphe, celui de l'Étoile ou de la Porte Saint-Denis, Gay s'enorgueillissait plus que jamais, s'avançant dans un espace vide devant les passants qui font la haie, haut juché, superbe, contemplé, touchant du front presque la sublime voûte, parmi le grand silence, l'odeur victorieuse des bouquets et des couronnes parjonchées.
Il se croyait alors lui-même pareil au triomphateur, pour qui ses arches de pierre furent bâties et traînées comme eux à sa suite quelques dépouilles opimes. Sa profession lui allait aussi de fréquentes et gratuites libations, surtout pour les convois des pauvres. Il n'y avait pas ces jours-là grand profit d'orgueil, ni joie de cérémonial, mais il avait le bénéfice de quelques litres de vin à déguster sous les tonnelles dans la banlieue. C'est là que sont les cimetières des humbles. Ceux-ci fraternisent vite, ont le besoin de mettre du vin dans leurs larmes. Pendant l'inhumation, Gay abandonnait sa voiture vide, allait boire un coup chez le marchand de vin proche. Il y était bientôt rejoint par la famille du mort. On causait, on buvait ensemble, on s'attardait. S'il ne faisait pas trop mauvais, on allait s'asseoir au jardin. Ô Villette, vos croque-morts trinquant dans des bosquets d'octobre. Gay aussi trinquait avec la veuve ou le veuf, avec les parents en deuil. Il en avalait des litres de vin bleu, de vin blanc, et des absinthes et des bitters, puisqu'on avait l'amabilité de le régaler. À son tour, quand les gens du convoi étaient partis, il offrait à boire à ses collègues. Il ne pouvait plus s'en aller. Encore un peu, il aurait dételé les chevaux et les aurait fait manger de l'avoine dans la cour, mené à une écurie voisine avec leur housse noire. Il devenait bavard, facétieux, d'une gaieté débordante. « Je m'appelle Gay, » criait-il en se frappant la poitrine. « Et je suis de naissance, je suis digne de mon nom. » Ses collègues commençaient à le trouver encombrant. Gay les interpellait. « Qu'est-ce donc qu'avez-vous avec ces figures d'enterrement ?» Le soir, enfin, il se décidait à regagner Paris, à remiser le char funèbre. Il songeait la bonne journée, se remémorant la promenade, les rasades sans fin, les conversations avec cette famille qui était très comme il faut, et la veuve assez bien conservée. Peut-être qu'il la reverrait. De tout le reste, c'est-à-dire du cercueil, des larmes, de la mort et du deuil, Gay n'avait rien retenu ni rien vu. Oui, il comprenait maintenant que ses collègues fussent graves et soucieux. Les croque-morts, eux, touchent la mort, ils portent le cercueil. Et alors il est bien difficile de ne pas songer à soi-même, et que la vie est courte. Mais lui, Gay, était gay. Du haut de son siège, il ne voyait rien. Tout cela se passait derrière lui. Et puis, le cocher des pompes funèbres n'avait jamais vu un mort. Il n'en avait donc pas l'inoubliable vision, le dur effroi. Orphelin dès le bas âge, il ne se souvenait pas d'avoir vu mourir ses parents. Ensuite, à l'hospice où il fut élevé, dans la ferme dont il fut le valet, personne n'avait trépassé de son temps. Vraiment, c'était extraordinaire qu'à 40 ans, il ne sut pas ce qu'était qu'un mort. Surtout qu'il en conduisait un chaque jour, pour ainsi dire, à son tombeau. N'était-ce pas un peu ridicule, cette ignorance, dans sa profession surtout? C'était une lacune en tout cas. Gay considéra qu'il conduirait mieux peut-être au jour de gala de la mort, avec plus de majesté et un sentiment plus juste du cérémonial funèbre, s'il savait enfin ce qu'il faisait. Or, il l'ignora jusqu'ici, puisqu'il conduisait dans son char quelque chose dont il ne se rendait pas compte. Le sentiment d'une obligation professionnelle l'obséda, et aussi une curiosité qui devint grandissante. Il lui fallait savoir, voir un mort enfin. Où? Comment? Mais la morgue, parbleu. Un jour qu'il serait de ce côté, avec son corbillard vide, au retour de l'enterrement, il s'arrêterait, descendrait. Cette idée le hanta. Il entra. Et brusquement, la porte à peine franchie dans un vestibule humide, il aperçut face à face, derrière une baie vitrée, les cadavres. La secousse fut violente. Que n'avait-il pas été prévenu, acheminé peu à peu? Mais cette soudaineté du spectacle, ce fut comme une confrontation, et les morts, en effet, avaient un air d'assassinés. C'est toujours ainsi que Gay, dans les romans feuilletons des gazettes qu'il lisait, se figura les victimes des drames qu'on y raconte. Il y avait là, sur les dalles de pierres inclinées, où tombe l'eau d'infatigable robinet, trois cadavres d'inconnus, avec un tablier de cuir sur le corps nu. L'un avait le front troué d'une plaie, noyé qui fut blessé dans sa chute sans doute, ou par quelque gaffe de marinier, un autre noyé, aussi horrible, tuméfié, gonflé. Une femme, enfin, dont un œil était mal fermé, et qui regardait de si loin, avec un œil si vieux, dans le visage pourtant jeune. Gai s'enfuit. Au dehors, il faillit chanceler, comme quand il avait trop bu chez le marchand de vin, et que l'air l'achevait. Est-ce que l'épouvante grise aussi? Quel vin de la mort avait-il bu, ce liquide dont le glouglou emplissait le silence de la morgue? Il trembla sur ses jambes. Il eut grand-peine à remonter sur son siège. Il essaya de se ressaisir, poussa ses chevaux, fit claquer son fouet d'un air fanfaron. Une indicible angoisse demeura en lui. Et c'est cela que je mène depuis des années. Un dégoût insurmontable lui vint de son métier. Dorénavant, il se représentait la mort, il la voyait. Il n'eut pas jusqu'au bouquet couronne fané par la veillée, dont le parfum rance ne lui suscita l'odeur présumée de la décomposition. Quand il passa encore debout sur son siège, sous l'arc de triomphe de l'étoile ou de la porte Saint-Denis, qu'il franchissait naguère si exultant d'orgueil, il sentit un froid lui tomber des hautes voûtes, une humidité venir des sublimes pierres, comme s'il passait sous la porte de son tombeau. Et des peurs étranges qui l'affolèrent. Qu'un de ses chevaux, par exemple, s'emballa. Déjà, il voyait la course vertigineuse, le corbillard cahoté, puis versant, et la bière projetée, brisée, s'ouvrant, lui montrant une seconde fois le spectacle de la mort. Vision macabre, supplice intolérable. Gai démissionna. Lui, si heureux et fier à l'origine, quand il obtint le poste de cocher dans l'administration des pompes funèbres, si jovial et franc-luron, quand il l'ignorait. Il ne faut jamais rien vouloir approfondir.
Bravo, hein, c'était pas facile à lire, c'est très beau. Mais c'est, le texte est très beau. Hein.
Ouais.
Et la dernière phrase, il ne faut jamais rien approfondir, c'est un humour, c'est de l'humour noir, j'ai envie de dire.
C'est, noir.
Hein, c'est magnifique. Pour se remettre des émotions, merci, très beau, là, c'était nickel. On va écouter un peu de musique, si bien, Simone, il va
venir. Quelques bafouillards.
Ouais, mais bon, il y a...
Thank you.
Le jazz m'a ouvert à l'amour. Adolescent, je suivais la voie de Sucre de Chet Baker en regardant des photos de filles nues. J'écoutais Stan Getz en bandant et Lester Young me donnait le miel de ses corps dénudés que je cachais au fond de deux grandes bourriches en matière plastique imitée de l'osier. Enveloppée de coton hydrophile, Billie Holiday, gorge de contour noir vanille et recouverte d'un amoncellement de coquilles vides ramassées l'été sur les plages de Normandie, là où le jazz avait débarqué en juin 1944. Mes photos de filles dévêtues se mariaient à ce toit de coquillages comme des choses ayant des correspondances entre elles, filles, coquilles, et qui se succédaient dans un même lieu comme un même sujet équivaut et s'ajoutent à deux sujets qui le constituent à l'image du saxo à trois embouchures de Roland Kirk savamment distingué par sa virtuosité exquise. Ça fait 25 ans que vous avez écrit ça, M. Koda.
Je
vois que vos tropismes sont toujours les mêmes. Hein.
C'est-à-dire
le jazz. Le jazz, les dames.
Coquillages.
Le jazz, les dames, la bicyclette,
les
dames.
Les dames de Normandie.
Toujours pareil. Bon, c'était Jeff Sicard qu'on a écouté, là.
Oui, c'était une composition de Jeff Sicard.
Pourquoi les dames, voilà.
Je ne sais pas.
Donc, c'est un livre, c'est un morceau extrait de Tropisme, qui est un disque de Jeff Sicard. CD de 2004 avec Nicolas Genet, Sébastien Lado, François Mécali et François Lézot. Et c'est des compositions de Jeff Sicard.
Ce que j'ai lu sur le jazz, bah, c'est extrait de Vita Nova, hein, aux éditions Unicité. Là, tout à l'heure, j'ai dit que vous aviez un point commun, c'était le kiné de belle-mère avec
Joseph. Ouais.
Et là, avec monsieur Triboulet, vous avez un point commun, c'est la mouffe.
Ah oui,
c'est la mouffe. Oui, parce que Triboulet, tu as fait des cabarets, toi.
Oh, les cabarets de la mouffe, je les ai pratiquement tous faits, quoi.
Alors, j'ai habité sur la Grande Escarpe, non, très longtemps.
Moi aussi.
Ah oui.
est-ce que tu es retourné?
Hein?
Est-ce que tu es retourné là-bas?
Ouais, mais ça me fout le moral en l'air. C'est horrible.
On s'y est rencontrés.
C'est horrible, ça me donne envie de pleurer. C'est atroce.
Ce que c'est devenu.
Ah, c'est atroce.
La Contre Escarpe avait vu passer bon nombre d'écrivains, Miller, Hemingway, Joyce, Debord, Verlaine et d'autres. En bon nombre de clochards qui, dans les années 80, posaient toujours pour les touristes aux photographes contre une petite pièce. Aujourd'hui, la place était transformée en fontaine moche, entourée d'une pelouse moche et d'autres choses très moches que je veux oublier et que j'ai oublié, puisque je n'ai fait encore plus ce quartier. En revanche, à cette époque, c'était encore une place où dormaient pêle-mêle les clochards et leurs chiens qui venaient m'accueillir en remuant la queue quand je rentrais chez moi au petit
chiens,
matin.
Hein,
l'un d'entre eux gardait ma voiture. Aussi n'y ai-je trouvé qu'une seule fois un type ronflant à l'arrière parmi des seringues qu'il avait vidées de son sang. Voilà. Enfin, c'est vrai que nous, on s'est rencontrés, on ne peut plus y aller. Hein.
Non, c'est invisible.
Tu retournes là-bas
des fois? Oh non, ça me déprime.
C'est terrifiant. Ah
oui. Bon, déjà, il y a la nostalgie. On était beaucoup plus jeunes, déjà, d'une part. Ouais, et puis, c'est devenu un lieu innommable.
Parce que, objectif,
du moins, sans intérêt.
T'as ce grand café qu'on appelait la shop. Je ne sais pas si tu vois la
shop.
Il y avait des immenses sandwichs pour que tout le monde bouffait là. C'est un truc de snob maintenant.
Ah oui, c'est plus possible.
Il y avait les frères libanais, là. Il y avait les Irlandais.
Et il y avait
j'habitais au-dessus des Irlandais, moi.
Et il y avait un espèce de café qu'on appelait le Pronobis.
Oui.
C'était un cabaret.
Je ne suis pas passé là-dedans.
C'est là que Vince Taylor, je ne sais pas si ça vous
Vince,
inspire,
ah oui.
A fait sa rentrée entre deux chaises, trois canettes de bière et une minette qu'il applaudissait tous les cinq minutes.
C'était Vince Taylor. Il était où ce truc?
Et ben, il était en haut de la rue Mouffetard, dans la rue Mouffetard.
Et il y avait la méthode. Le cabaret de... merde.
De Coluche?
Non.
J'ai passé à la méthode Coluche.
Non, mais enfin la méthode qui était en face de l'école de Polytechnique.
Oui.
Et qui était le cabaret du chef des situationnistes.
Ah, d'abord.
La Contre-Escarpe, lieu psycho-géographique.
Voilà, extraordinaire. Et belle-mère a habité là. Hein.
Et belle-mère habitait rue Mouffetard. Exactement.
Ouais. Bon, tout ça est cohérent. T'as vu qu'on a la cohérence sur Radio Liberté 89.4. Alors, c'est la première fois que M. Koda assiste à notre réunion sur Empreinte. Il fallait quand même des choses qui aient une résonance dans lui. Hein.
Ouais.
Et la résonance, je l'ai trouvé très curieusement, Francisque Poulbeau. Que je pensais le petit garçon qui était comme ça sans aucun
innocent.
Problème.
Ah, bah non, c'est pas du tout ça.
Et là, c'est absolument superbe. Hein. Alors, c'est il y a 5-6 gravures là.
Dessins,
c'est des dessins là.
Ouais.
Là, il y en a un qui s'appelle Point de vue. C'est deux gosses qui sont sur un toit. Il y en a un qui dit à l'autre grouille-toi. Il y met un oreiller sous les fesses.
Oui, oui. Ah, c'est super.
C'est des voyeurs.
C'est des voyeurs.
Des voyeurs de 7 ans. Voilà.
Il n'y a pas d'âge.
C'est lui qui dit, on va rigoler, vous seriez des dames qui se promènent et moi je serai le satyre.
Ah oui, oui. Alors, ah, ça me plaît. Hein,
ça, oui, ça, je me disais,
le jeu moderne, ça s'appelle le jeu moderne.
Il y en a un qui est très beau aussi. Attendez, il faut que je le trouve.
Il faut lire aussi les titres parce qu'ils sont très drôles, les titres.
Ah oui, oui.
Attends, il y en a un qui est très très beau.
Me marier avec toi.
Oui, c'est ça.
Maman ne voudra jamais. Parce que je suis un garçon aussi.
Non, c'est super. Bah, alors, effectivement, dans l'introduction qu'a fait Claude, là, il y a une chose qui est juste. Ah oui, c'est simple. La première, c'est en couleur d'ailleurs. C'est un petit garçon qui soulève la jupe d'une fille pour allumer une cigarette.
Non, c'est la fille qui soulève sa jupe.
C'est la même. Ah oui, c'était. Oui, bah, en deux ans mieux, Claude Brabant. Hein.
Et elle n'a pas de culotte. C'est ça le problème.
Elle n'a pas de cube.
Le problème.
Et pour le petit garçon, c'est sa première cigarette. C'est la cigarette qui est importante, pas la fille. Hein.
Intitulé, alors, la première cigarette. Ce dessin montre une petite fille soulevant sa jupe pour permettre à un garçon, un jour de grand vent, d'allumer une cigarette. La petite fille ne porte pas de culotte. C'est là, à l'occasion de la publication de ce dessin en couverture du journal Les Hommes du Jour en 1911, que le magistrat et sénateur René Béranger porte plainte contre Francisque Poubeau pour outrage aux bonnes mœurs. Mais il provoque une réaction dans la presse qu'il n'avait pas prévue, car elle décide de prendre parti pour le dessinateur. Les artistes se mobilisent et publient des caricatures de René Béranger que l'opinion surnomme le père la pudeur. Il est de retour aujourd'hui, je vous signale.
Ouais.
Un procès a eu lieu et le tribunal conclut à un non-lieu. Pour fêter cette victoire, contre le moralisme le journal, le sourire donne un banquet où sont conviés les dessinateurs, les peintres, les musiciens, les acteurs. Et là, Claude, c'est là qu'il conclut. Sommes-nous certains, si ce même dessin était publié aujourd'hui en couverture d'un journal, qu'il serait vu avec humour comme il l'a été à l'époque? Non?
Voilà.
Il y aurait procès. Là.
Ah oui, ça passerait pas.
Incitation à la pédophilie, là.
Il ne serait même pas publié, il passerait même pas. Hein? Il serait censuré tout de suite à la rédac. Ouais.
Pourtant, c'est charmant.
Charmant.
Ah, c'est bien, drôle. C'est bien foutu, tu trouves pas au niveau du.
C'est délicieux.
Ah, c'est délicieux, c'est au niveau du.
C'est plein de finesse.
Quelqu'un que tu connais a lu son numéro 40 d'empreinte, oui. Et m'a dit il est triste ce numéro.
Ah bon?
Non, il est triste. Effectivement, moi, on n'a pas le temps, mais le plus gros pavé de ce numéro, c'est. Je crois que ça fait 5-6 pages. C'est les mémoires d'Élise Sabide. Raconte ce que c'est, parce que c'est.
C'est un criminel qui a tué en 1850, quelque chose comme ça, au milieu du 19e, une femme qu'il aimait et ses deux enfants. Voilà. Et quand il a été attrapé par la police, il a, au lieu de faire des aveux comme ça, il a préféré écrire. Et donc il a écrit son mémoire qui raconte tout, un peu sa vie et aussi son crime. Et ça a servi de pièce du procès, voilà.
Où c'est que tu as trouvé ça?
J'ai trouvé ça dans des journaux du 19e qui sont sur les grands procès, les causes, voilà.
Il faut dire qu'il a une éducation religieuse,
oui.
Il est même lui-même éducateur. Il est lui-même éducateur.
Oui, il est lui-même éducateur, hein? Absolument.
Voilà. Est-ce que quelqu'un a vu le film de Tavernier, Le juge et l'assassin?
Oui, bien sûr. Hein?
Ça m'a fait penser à ça, ce type qui est complètement fou, qui commet des crimes dans toute la France.
Calabru dans le rôle.
Calabru, ça finit par un chant de la Commune, je ne sais pas si tu te souviens, la Commune.
Très, 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 très beau film.
Mais, non, mais c'est, il a réellement existé. Hein, il est appelé L'homme à la toque blanche.
Mais il n'est pas le seul, il y en a un autre.
Un type qui errait par les champs
et les
grèves et qui violait, qui tuait des jeunes bergères.
Et il y a eu plusieurs cas fin 19e, comme celui-là, de gens pris de folie qui sont mis à massacrer. Voilà.
Il y en a même un qui a mangé une bergère.
Ah oui?
Non seulement il l'a tué, mais il l'a mangé. J'ai failli le mettre à la place d'Élie Sabine.
Ah, ça m'intéresse profondément. J'étais un grand lecteur de la littérature cannibale brésilienne.
Mais on peut s'interroger. Alors, tout à l'heure, je vais vous dire un secret. Quand il y avait la musique, je suis allé voir Monique en cabine. Et Monique me dit, qui est une sage, elle est sage, elle m'a dit, avec tout ce qui se passe là, le monde, là, on est inquiet, il y a des angoisses, etc. Elle ne m'a pas dit ça comme ça, mais j'ai traduit. Et on peut penser que c'est ça. C'est ça, la fin 19e, est-ce que c'est l'alcool, est-ce que c'est le changement d'industrialisation et des choses comme ça, des gens vont commencer à péter les plombs. Je n'ai pas traduit votre pensée, Manique, un petit peu? Non, bravo, merci. Je n'ai pas approuvé, elle m'a dit non, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Donc c'est terrible, cette histoire. Oui. Il va se livrer aux flics.
Il est attrapé. Il est attrapé sans le vouloir. Mais il passe aux aveux tout de suite, je veux dire.
Il fait ça à grands coups de marteau et de coups.
Ouais.
ça devrait vous plaire, ça, à grands coups.
Ah oui, oui.
Hein?
Oui, c'est magnifique.
Ce qui est curieux, c'est que, bon, il essaye d'expliquer pourquoi il a fait ça. Et il n'y arrive pas, quoi. Il n'y arrive pas à expliquer. Il se donne des raisons, mais c'est des fausses raisons. Et lui-même ne sait pas du tout.
C'est un dédoublement?
Je ne sais pas, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il n'essaye pas de se faire passer pour fou du tout. Au contraire, il essaye de justifier de manière rationnelle son crime. Mais ça ne tient pas debout. Donc finalement, il a fait ça sans savoir pourquoi.
Il finit guillotiné, je crois.
Il finit guillotiné,
c'est la meilleure des solutions. D'ailleurs, nous avons ici, dans ce studio, un être spécialiste du dédoublement, monsieur Coda, puisque oui, je vous rappelle que... Je me demande si c'est pas moi qui ai écrit votre livre, d'ailleurs.
C'est possible. C'est pour ça que je l'ai complètement...
J'écris beaucoup mieux, monsieur Coda.
C'est pour ça que je l'ai complètement oublié.
Alors, Paul, c'est la deuxième partie. Paul, c'est moi, a dit Jacques Coda. C'est aussi le prénom de son grand-père paternel et celui de son arrière-grand-mère maternelle, Paul Stuart, qui a écrit L'Arme et Rie, où l'on trouve une chanson rose et un sentier caché.
Exactement. Ouais. D'ailleurs, on parlait de symbolisme. Mon arrière-grand-père donc, correspondait avec Mallarmé. Et je crois que Mallarmé correspondait beaucoup avec Rodenbach, hein, je crois. Hein.
Oui, c'était.
Ils étaient assez liés, tout au moins par l'écriture, par la correspondance. Voilà. Et effectivement, en plus, quand tu m'envoies ce SMS en disant on va parler de Rodenbach, j'étais chez Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye, qui est également un peintre qu'on peut qualifier de symboliste.
Pourquoi tu m'as dit que c'était proche de Rodenbach?
Parce qu'il y a cette peinture symboliste, il y a toute cette fin de siècle, on est là. Et puis, bon, lui, il court jusqu'au. Il meurt en 43, Maurice Denis, bêtement d'ailleurs, où j'habitais avant à Port-Royal, renversé par un camion. Bon. Et je referme la parenthèse. Et. Parce que j'étais dans cette espèce d'idée de la mort. Là, on parlait de ça. Là. Parce que la mort a beaucoup à voir avec le symbolisme. Il y a toute une littérature, toute une peinture aussi. Hein. Là, c'est la peinture. Alors lui, il est mystique chrétien. Hein. Maurice Denis, là, il a acheté un prioré. Il a décoré une chapelle. Il a mis 15 ans à faire le chemin de croix du Christ, la passion. C'est assez beau. Hein. C'est très, très beau. Et il a peint sa femme, ses filles, entouré de femmes. Mais en même temps, il flotte une espèce de parfum vénéneux là-dedans qui rappelle un peu l'univers de Jeanne
Il est en plein dans le symbolisme,
Maurice Denis. Oui, c'est ce qu'on appelait les nabis, tout ça. Il faut bien donner un nom. Hein, où ils sont plusieurs. Il y a Vuillard, Bonnard. Ils sont bon, c'est un peu après
tout ça.
Mais c'est une survivance. C'est Gauguin, quoi, le grand-père. Et Gauguin, il a un pied là-dedans.
Et puisque vous vous aventurez sur le terrain de la peinture, vous qui adorez l'abstrait, monsieur Coda,
c'est ma passion.
Est-ce que vous connaissez cette toile de Nicolas de Staël?
Sans doute.
C'est
les footballeurs.
Un soir au Parc des Princes.
Oui, c'est ça, c'est le foot, c'est
oui.
ça
Oui, oui, je l'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a très peu d'abstraits qui ont grâce à mes yeux. Il y a en ce moment une dame qui expose, là, qui est Mitchell, avec Manet, que j'aime beaucoup. Et puis de Staël, ouais, que j'arrive à regarder. En parlant de ça, j'étais voir Kokoschka. Ouais. Et ça va nous ramener à Belle-Mère. Kokoschka, là, c'était l'amant d'Alma Mahler. Et quand ils se sont séparés, voilà la poupée. Et Belle-Mère l'a vue, cette poupée.
Il l'a vue,
ça l'a fortement marqué.
On peut raconter vite, il se baladait partout avec
une poupée. Avec une poupée grandeur nature.
Et un jour, qui était censé être Alma Mahler.
Voilà.
Et un jour, il l'a décapitée en public.
Il a, oui, une beuverie d'un soir, il l'a massacrée. Et même les flics sont venus, parce qu'il avait jeté le cadavre, si j'ose dire, dans le jardin. Et ils ont trouvé donc une poupée désarticulée qui fait largement pensé à ce que va faire ensuite Hans Bellmer.
Donc vous avez choisi, M. Connat, de montrer des coureurs, c'est-à-dire vous n'atteignez pas l'abstrait, on voit que c'est vraiment des
là, tu veux dire dans le...
Ce que vous avez fait il y a 50 ans, là.
Oui, il y a plus que ça. Les dessins, tu veux parler. Oui, bien sûr.
Vous savez que, je ne sais pas si vous connaissez Ivar Chavard.
Oh bien, même.
D'accord. Il a écrit une chose que je lui ai envie, les couleurs cyclistes.
Oui, absolument.
C'est beau, non?
Ouais, c'est très beau.
Les couleurs cyclistes.
Ouais. Bah, lui aussi est un picard. Il est né sur ses terres de vélo, hein, à Jevavar. Ça veut dire le crabe, hein, picard.
Ça veut dire le crabe. Donc, on va suivre toujours l'empreinte numéro 40. Là, il y a toujours une iconographie très recherchée. Hein, voilà. La couverture, j'avais pas compris là, tu vois, je suis un peu buté parce que j'avais pas ouvert le livre en deux. Pour bien saisir, il faut ouvrir la. Monsieur Cobain, faites un effort, ouvrez, regardez voilà. Et là, c'est le monde à l'envers. Tu expliques ce que c'est?
Alors, c'est un sujet de la littérature populaire qu'on retrouve pas mal. C'est le monde à l'envers, c'est-à-dire, ils imaginent un monde inversé. Le boucher, c'est le bœuf, et il écorche un homme. Le fermier et son âne, c'est l'âne qui conduit le fermier, et pas le contraire, etc., etc.
Ça vient très tôt, c'est au 18e, c'est ça?
Oh, ça vient, ce sujet vient beaucoup plus tôt, vient vers le Moyen-Âge.
Vers le Moyen-Âge. Oui. C'est pas ce qu'on appelait les fatrasies, des choses comme ça?
Non, c'est pas ça.
Non.
Non, c'est le monde à l'envers, c'est un truc spécial de littérature et d'imagerie populaire. Et là, c'est des gravures sur bois, donc qui sont tirées d'un chapbook. Un chapbook, c'est la littérature de colportage anglaise.
Comme la Bibliothèque Bleue, c'est ça?
Voilà, c'est comme la Bibliothèque Bleue, sauf que c'est plus illustré.
Et moi, je pense que c'est quoi la Bibliothèque Bleue?
C'est une littérature populaire qui était colportée, comme ça.
Voilà.
J'en ai quelques exemples, pas d'origine, hein, réédité.
Oui, bien sûr. Mais elle n'était pas très illustrée, la Bibliothèque Bleue. Tu vois, c'était des histoires, des légendes, mais il n'y avait pas beaucoup d'illustrations. Tandis que dans les chapbooks anglais...
Il y a beaucoup de
gravures. Il y a beaucoup de gravures, il y a beaucoup de...
D'accord.
Voilà, et donc ça date du 18e, c'est des gravures sur bois du 18e.
C'est un esprit non sensique, mais qui est très sensique, puisqu'il ne fait qu'inverser les choses.
Oui, c'est ça.
Hein, voilà. Il ne fait qu'inverser, parce que je...
C'est les poissons qui pêchent.
Les poissons qui pêchent, et choses comme ça.
C'est la lune qui se lève et le soleil se couche, c'est ça.
Bien, vous suivez bien, monsieur Connat. Vous pouvez revenir. On va écouter un peu de... Jeff Sicard. merci, mais hop, 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 mais, bon, bon, oh. Je fais de la position sonore maintenant, d'accord, sur Radio Libertaire au 01 43 71 89 40, et bien toujours sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause. Mémoire d'Élise Abide, écrit par lui-même. Ce mémoire est une pièce qui figure au procès de Vincent Élise Abide, auteur du meurtre de Marie Anisa et de ses deux enfants. Tout de suite après son arrestation, le meurtrier a avoué ses crimes en rédigeant ce mémoire, qui est comme une confession. Il a été publié intégralement dans la relation complète du procès Élise Abide, ouvrage anonyme paru la même année que le procès en 1840.
Je suis né à Mauléon, dans les Basses-Pyrénées, en 1810, de Pierre-Élise Abide et de Jeanne Boréos. Mon père a fait longtemps le commerce avec plus de probité que de bonheur. Dès ma plus tendre enfance, des penchants vertueux, une raison précoce, un caractère sérieux, une grande aptitude pour les sciences, me firent destiner à l'état ecclésiastique, vocation la plus belle que l'on sache enseigner dans nos contrées à un enfant bien né. Une demoiselle pieuse, aujourd'hui supérieure d'un couvent de religieuses à N, instruisit mes premières années et cultiva dans mon cœur les germes de la vertu. Des mains de cette demoiselle, je passai dans celles de son père, maître de pension à Mauléon, qui me donna des leçons de latinité jusqu'en cinquième. Je n'avais pas 8 ans que ma tête était déjà fatiguée par des lectures immodérées, faites sans guide et sans discernement. L'étude de la religion avait pour moi un attrait tout particulier. Quoique les passions eussent été aussi précoces et aussi vives que la raison, ma conduite parut assez extraordinaire dans un enfant de mon âge, pour me faire considérer par ceux qui me connaissaient comme un enfant privilégié. Cependant, ceux-là même qui m'entouraient de leur affection, de leurs soins et de leur hommage, ignoraient profondément que lorsque, triste et silencieux, j'évitais les jeux de mon enfance, pour me livrer à des rêveries solitaires, si dangereuses et si fatales pour moi, puisqu'elles ont apporté la manie.
Oui, comme j'ai perdu le fil... Ce n'est pas grave, on va y aller. Et on saute. Habituellement, doux, obligeant d'un commerce agréable, je tombais tout d'un coup, sans aucun motif apparent, dans des accès de tristesse et d'humeur noire. Je me plaignais de maux de tête, je gardais le lit plusieurs jours de suite, repoussant ceux qui venaient s'informer de ma santé et m'offrir quelques nourritures. En sortant de ma chambre, je cherchais quelque endroit écarté où ma consolation était de me livrer à la lecture. Puis parfois, je reprenais ma gaieté, je causais avec volubilité, je sentais que mes bizarreries devaient me rendre ridicule et j'employais toutes les ressources de ma raison à donner le change, le détraquement de mon cerveau. Ce détraquement qui fatiguait mon cerveau, qui bouleversait mes idées, dont je sentais l'incohérence par intervalle, j'avais trouvé le moyen de le déguiser à tous les yeux sous l'apparence de souffrance physique. Il était remarqué que ceux qui me voyaient à distance et rarement me prenaient pour un esprit sombre à idées noires, tandis que ceux qui me voyaient tous les jours ne pouvaient se défendre d'un certain attachement pour moi. J'avais 16 ans lorsque je revins à la maison paternelle, profondément découragé et dégoûté de tout, ayant fait un cours de rhétorique sous un maître de pension à Oloron. J'avais formé le projet de renoncer aux études, à la carrière ecclésiastique et d'aider mon père dans le commerce.
Alors, on va aller vers la fin,
oui,
de ce texte. La nature se tordait impuissante sous le fanatisme qui me dominait. J'écrivis encore à Marie que j'irais au-devant d'elle jusqu'à Bordeaux, et pour que cette détermination ne l'étonnât pas, je lui dis qu'il me fallait aller prendre à Angoulême 2 jeunes enfants dont on voulait me confier l'instruction. Que dans le cas où, contre ma volonté, je ne me trouverais pas à la descente de la voiture, notre rendez-vous commun serait un hôtel que je lui désignais. Retardé dans ma route, j'écrivis de Poitiers pour rassurer Marie et lui annoncer que je serais rendu peu de temps après elle. Ce retard l'avait attristée. Elle pleurait et paraissait avoir beaucoup pleuré lorsque j'entrais dans sa chambre. Je restai stupéfait à cette vue, de grosses larmes s'échappèrent de mes yeux. Sans prononcer un mot, je m'emparai des mains de Marie et les pressai fortement sur ma poitrine. Mon imagination, subjuguée par la sensation du moment, me fit oublier tous les projets formés. Je ne songeais plus qu'au moyen de la rendre à sa gaieté. La plus vive satisfaction eut bientôt succédé aux peines. Les plus tendres caresses avaient fait oublier la tristesse de l'accueil. Nous n'avions pas encore épuisé toutes les distractions que pouvait nous offrir Bordeaux, que j'étais revenu à toutes mes pensées de mort, en la voyant heureuse et en pensant qu'à cet instant de bonheur succéderaient des années d'infortune.
Je quittai Marie le samedi soir sous le prétexte d'une affaire en ville qui demandait le reste de la journée, et je me disposais à tout préparer pour l'explication décisive qui devait avoir lieu. Après avoir fait le choix du lieu, que je croyais propre au dénouement attendu, j'arrêtai une voiture qui devait venir prendre 3 personnes à 8h30 du soir pour les porter sur la route assez près du lieu précédemment choisi. Tout s'exécutait, mais j'étais loin d'avoir l'énergie froide qui m'animait lors de la mort de Joseph. Rentré à l'hôtel vers les 6h du soir, je trouverai Marie en compagnie d'une jeune personne. Autant que de confus souvenirs peuvent me le rappeler, je parlais beaucoup avec volubilité et chaleur. Je me donnais beaucoup de mouvements pour préparer le départ. À 9h, la voiture roulait, nous emportant Marie, l'enfant et moi sur la route de Libourne. Je passais de l'espoir à la crainte, de la crainte à l'espoir. Je ne pouvais maîtriser le tremblement qui me saisissait par intervalles. J'étouffais, je voulais me rappeler les paroles préparées pour Marie. Mémoire et jugement, tout m'avait abandonné. Marie, inquiète de mes souffrances et du silence qui les accompagnait, recevait pour toute réponse: ce n'est rien, c'est un mal d'estomac qui passe déjà. La voiture envoyée, nous marchâmes quelques minutes, mes genoux fléchissaient, l'air manquait à mes poumons. Il m'était impossible d'unir deux idées. J'allais défaillir sous la violence de mes émotions. Lorsqu'arrivé à la petite place que j'avais choisie pour le lieu de l'explication, je m'arrêtai. Un transport indicible agita ma tête. Mes membres frémirent. Je devais être effrayant. Je m'avançais vers Marie, armé du marteau. Je frappais. Je la vis tomber, et au moment où le fer échappait de mes mains, un cri d'enfant me rendit à mon transport. Je frappais encore. Je ne sais dans quel ordre, mais le silence de mort qui régnait autour de moi fut accompagné des mêmes errements qui devaient prévenir le retour de la vie chez Joseph.
Stupide et hébété, j'allais m'accroupir à quelques pas de mes victimes. Je n'éprouvais aucun besoin de m'éloigner de ce théâtre d'horreur. La pluie qui tombait en abondance, accompagnée d'un grand vent, m'avait percé sans que je m'en aperçusse, lorsque les aboiements d'un chien me firent bondir sur place. Des terreurs comme les hommes ne m'en ont jamais inspiré s'emparèrent de moi. La pluie me brûlait, le vent me maudissait. Mon parapluie même me paraissait un spectre. Il me semblait que la nature entière parlait de mes meurtres, que les cadavres se dressaient pour m'accuser. Pour la première fois seulement, j'eus peur de Dieu. Je n'ai qu'un souvenir confus de tout le reste. J'ai mis assez de franchise dans mes aveux pour qu'on ne croie pas que je veux taire des circonstances qui n'ajouteraient d'ailleurs rien à l'horreur de mes actes.
Le matin du second jour, je n'éprouvais plus qu'une forte agitation nerveuse qui se trahissait par le tremblement de mes membres. Lorsque je fus arrêté, l'idée ne me vint pas de disputer ma tête à la justice. L'image de mes parents déshonorés fut la seule chose qui m'émut profondément. Je demandai une plume, je fis par écrit mes révélations que je n'aurais pas eu la force de faire de vive voix. Les premières lignes que j'écrivis furent celles-ci. « Je demande aucune grâce. Ma mort sera bien méritée. Que l'on sauve, s'il est possible, mon pauvre père, ma pauvre mère, du désespoir que leur causeront mes horribles égarements. » Il est très bien, ce garçon, non?
Oui.
Il est très bien, c'est...
Il écrit pas mal, hein?
Oui,
c'est pas mal écrit.
Il écrit très bien. Ah, je trouve que c'est vraiment très, très bien.
Mais c'est
clair. Ce qui est marrant, c'est qu'en fin de compte, il se présente comme un brave garçon.
Oui.
Avec quelques minutes d'égarement.
Quelques minutes d'égarement.
Ce qu'il y a, c'est que... En fait, il devait penser, mon truc là c'est très bien écrit, je vais les baiser. Ah ben non, il a été condamné.
C'est vrai qu'il présente bien. Hein, il est propre sur lui. Là.
Je ne sais pas si tu connais l'histoire, il faudrait voilà, pas dire de bêtises, arriver très... On en parlait tout à l'heure hors micro. Mmh. C'est Arnaud, celui qui a écrit Le salaire de la peur.
Oui, Georges Arnaud.
Oui, Georges Arnaud, oui. Qui était un fils de bourgeois et qui est rentré de Lyonnais, qui serait revenu chez lui. Le père et la mère étaient morts. Il a été accusé. Il a été accusé de. Il a été accusé d'avoir tué ses parents. Et c'est pour ça qu'il y a eu le livre Le salaire de la peur, parce qu'il est, il est parti en Amérique du Sud.
Je me souviens maintenant que tu me rappelles. Oui, tout à fait.
Monique, s'il vous plaît, merci. Ne rêvez pas, Monique, s'il vous plaît. Et merci Jeff Sicard, magnifique comme toujours. Super. J'ai remarqué, dans, appelez-moi Simone Lacan si vous voulez, que dans vos livres, monsieur, aussi bien dans celui chez Dourot, Jésus, qu'il Juliette, Héloïse, vous appelez toujours un héros populaire pour remettre de l'ordre dans, la, dans ce grand bordel que continue, constitue
quoi,
votre âme.
Une espèce de Zorro, c'est ça ?
Oui, oui, mais là... non, mais je parle au niveau du style. C'est-à-dire là, à la fin de Jésus, qu'il, Juliette et Loïse, vous faites intervenir le commissaire Maigret,
oui,
qui remet tout en ordre.
Absolument.
Et là dans, lorsque vous faites intervenir votre double Paul, là, qui n'a tué personne...
On
a le droit à un style extrêmement carré.
Ah oui.
Brusquement carré, qui dit attention,
j'ai écrit ça il y a 25
je calme les choses, ça aussi, ensemble,
ça je m'en souviens plus.
Depuis le début de l'émission, vous.
Oui, non, parce que.
Vous défaussez, cher monsieur.
Voilà, c'est quoi le style carré ?
Et je dis bien histoire, car outre qu'ontologiquement pédaler est ajouté du sien à la réalité du paysage, mécaniquement, le mouvement des jambes sur les pédales est comparable à celui qu'exerce notre mémoire.
Oui, c'est vrai. Écrire et faire du vélo, ça, c'est un peu la même chose.
Pour ça, tout à l'heure, je disais que votre rêve, c'est de passer en tête du mois.
Oui, il est réalisé.
Tout se passe et Tour de France sont des mots. Tour de passe-passe et Tour de France sont des mots parfois bien semblables. Et la mémoire y gagne ce qu'elle ne saurait manquer de perdre. Le souvenir de l'oubli, même par quoi est aboli tout souvenir. C'est l'existe du « je me souviens » devenu un tel poncif que je préfère ici le souvenir de tout. De Ferdinand Hérold, un poète et remarquable cycliste. D'André Fontenas, un poète abscon et remarquable cycliste. De Pierre Louis, un pur poète et remarquable cycliste. Du temps pur de la belle route et de la capitale des bois, d'où là-bas l'âne arrive. De Henri Pollack, un fragant jeune homme et remarquable cycliste. De Roger Vaillant avec un T, monsieur, vous corrigerez, c'est un D à la fin. Je vous remercie. Un écrivain cycliste à la forme remarquable. D'Alfred Jarry, remarquable tout autant et cycliste à la fois. D'Albert Singria, un écrivain helvète et remarquable cycliste, enfin du temps pur et de la belle route et de la capitale des bois d'où la banane arrive. Et de Raymond Roussel, remarquable chanteur, j'ai du bon tabac et transformiste hors pair, Jade Tube One Obad. Bon, celui.
Oui, parce que c'est les méthodes d'écriture de Roussel là, qui écrivait à partir de calembours, ce qui ne facilitait pas la lecture de ces bouquins.
Donc vous êtes mis en bonne compagnie,
oui,
là.
Oui. Ah, et Pierre Louis faisait du vélo, effectivement.
Ouais, Roger
Vaillant, j'étais élevé, moi, tu as dû lire 325 000 francs.
Bien sûr.
Hein, c'est le
magnifique
bouquin. Donc, et j'ai mis un thé, là. C'est vrai ?
Oui, un thé.
Ah bon, ben ça sera une fessée des culottes.
Claude Brabant, un personnage à récupérer, des textes, là, c'est Alfred Jarry.
Ah oui, 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 mais tout a été publié.
Tout a été publié.
Jarry, oui,
Donc il y a plein de bonnes choses dans ce numéro, ben, c'est un numéro 40, hein, plein de bonnes, on n'a pas pu tout voir. On va essayer très, 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 très rapidement, si tu veux bien, Claude. Les catéchismes Poissard. Tu vois, catéchisme, tu expliques un peu ce que c'est,
la littérature Poissard, c'est un genre littéraire qui a commencé, qui a été inventé par Vadet, qui a écrit un grand poème en littérature Poissard qui s'appelait La pipe cassée. Et puis, donc il était écrivain, Vadet, donc c'était un intellectuel. Mais il a imité le langage du peuple. C'est pour ça qu'on l'a appelé littérature poissarde. C'est un langage qui n'est pas de l'argot, mais qui est un langage très imagé, très, très fort, très cru.
C'est milieu du 19e, 1840.
Non, milieu du 18e.
Du 18e.
Vadet, voilà. Et puis, ça a eu, si on veut, tellement de succès, ce genre Poissard, que c'est rentré dans les mœurs et que ça s'est popularisé à nouveau et que c'est devenu. Que ça a été utilisé dans les carnavals pour s'interpeller, faire des joutes littéraires, s'engueuler de manière spectaculaire avec un public, etc. Voilà. Et là, le texte que je mets, qui sont les catéchismes Poissard utilisés pendant les carnavals, ça c'est 1850.
D'accord.
Voilà. Donc il y a un siècle entre les deux.
Et tu trouves que c'est vraiment populaire ou pas ? C'est littéraire ?
C'est littéraire au départ, c'est populaire à l'arrivée puisque c'est utilisé dans les carnavals par tout le monde. Voilà.
Tu nous fais, avant qu'on se quitte, tu nous fais 3-4 lignes, Tribouille. Au hasard, les catéchismes Poissard, là.
Attends, je cherche.
Tu l'as, viens, on prend un au hasard.
Alors, la Poissarde. Crois-tu, Rouchy, que tu as la puissance de pouvoir m'imposer silence? Il faudrait avoir sur ma foi un bien meilleur platin que toi. Apprends que la mienne est ferrée et qu'à Maubeuge, on l'a trempée. T'as cru qu'avec tous tes médires, j'allais me laisser abasourdir? Va, vilain chien, vieux paltoqué, va, ben en retraite, vilain caniche. Le malin, reprendons haleine pour cracher et je vais un petit brin te moucher. Tu vas attraper la pépille, car tu jacasses comme une pie. Va-t'en plutôt boire un coup de cric pour te renforcer l'alambic. La poissarde, je t'avais dit à peu près ton fait. T'es donc pas encore satisfait, eunuque? Tu ne rougis de rien? Dis-moi à quoi que t'es bon, vends rien. Mais c'est trop longtemps discourir avec quelqu'un que ne sait quoi dire. J'ai pitié de ton impuissance, car sans ça, t'aurais une danse. Adieu, beau valet du Grand Turc. Ailleurs, va te faire friser la nuque.
Voilà. Oui, c'est délicieux, effectivement. Voilà. Toi, c'est très drôle parce que lu par Triboulet, ça prend une autre qu'à la lecture. Bon, bah, messieurs, dames, c'était un plaisir. Hein, sur Onde de Choc.
C'était pas un plaisir pour moi.
Donc, Vita Nova, qui, oui, ça fait 70 ans que tu l'as écrit.
Oui, un peu
c'est
plus.
C'est publié chez Unicité. Oui. Je sais pas, je crois que tu as tourné dans le monde du cinéma un petit peu. Unicité,
télé.
C'était le nom de la maison de production propagandiste du Parti communiste dans les années 50, 40, 50.
Ça m'étonne pas, parce que ce livre est un livre de propagande.
D'accord,
pour
donc
le
c'est
Parti
un livre stalinien.
Oui, absolument. Oui,
oui, tu l'as écrit avec le poster de.
D'ailleurs,
de
sur la couverture, c'est le portrait de Staline enfant.
C'est là. Voilà, donc, sur la couverture, on voit Jacques Coda, la projection de Jacques Coda, en petit père des peuples.
Il y a marqué Joseph, je crois, en dessous.
D'accord. Quelque chose comme ça. On remercie Monique à la technique, bien sûr. Hein, voilà. Merci, Monique.
Et il y a le salon de la revue le week-end qui vient, là. Le 15 et 16.
Oui. Voilà. Rue des Blancs-Manteaux.
Rue des Blancs-Manteaux, la halle des Blancs-Manteaux.
C'est ça.
Où il y aura en 30-40 et plein d'autres revues, évidemment.
J'en serai.
Merci, Triboulet.
C'était
bien. Je remercie la courageuse Monique, moi.
Bon, merci à chacun.
Je t'en prie, merci à toi.
Claude, à bientôt.
À bientôt.
Bye bye. We'll be right back.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Libertaire et nous allons vous annoncer les programmes des animations de la librairie Publico pour l'ensemble du mois d'octobre. La première animation qui va avoir lieu cette semaine, ce sera jeudi 6 octobre, à 19h, rencontre-débat, FEM de John Nessel. Ce sera présenté par Noémie Grunenwald et Christine Lemoine, ses traductrices.
Joan Nestel est une icône lesbienne qui a vécu son lesbianisme au grand jour, bien avant l'émergence du mouvement pour l'égalité des droits. Féministe et antiraciste, elle s'est engagée dans de nombreuses luttes de libération. Porte-parole des désirs butch femme, Joan Nestel s'est revendiquée femme et sexuelle, à une époque où cela l'exposait à de virulentes controverses. Dans ce recueil, à la fois théorique, fictionnel et érotique, elle défend la mémoire lesbienne féministe et explore les dynamiques et les attirances butch femme. Et ça, c'est le jeudi 6 octobre à 19h.
Absolument. Le lendemain, vendredi 7 octobre, toujours à 19h, présentation lecture par Marie-Claire Calmu. La chevauchée de la nouvelle ère, poèmes et dessins.
Une rencontre décisive. Nous voilà projetés dans un autre univers. Doute et espérance, joie et tourment, tempête et grand beau s'y enchevêtrent.
La prochaine animation sera ensuite le dimanche 9 octobre, toujours la même semaine, à 16h, présentée par le groupe Segui. Le livre « Le peuple du drapeau noir, une histoire des anarchistes », présenté par son auteur Sylvain Boulouk.
Avec cet ouvrage, l'auteur nous invite à un voyage en terre d'anarchie. On y croise Proudhon, Bakounine, Kropotkine, Louise Michel et Emma Goldman. On y évoque la Commune de Paris, les révolutions espagnoles, mai 68, la contre-culture, le rock alternatif. On y rappelle les différentes formes d'organisation des anarchistes et leurs diverses sensibilités à travers les époques. Illégalisme, individualisme, pacifisme, anarchisme, anarcho-syndicalisme et communisme libertaire. Un livre qui permet d'avoir un aperçu des multiples visages de l'anarchie et de comprendre pourquoi cet idéal se transmet à travers les générations.
Merci Johan, et donc ce sera le dimanche 9 octobre à 16h, un petit peu plus tard dans le mois du 18 au 23 octobre, il y aura une semaine thématique sur le thème de l'immigration, elle va s'appeler No Border Week, donc semaine sans frontières, en lien avec la motion du dernier congrès de la Fédération anarchiste. La programmation se construit petit à petit, mais on peut déjà annoncer une exposition du photographe Anthony Rouxel, qui complétera son expo sur le centre de rétention administrative de Rennes par d'autres photos sur les sans-papiers. Il y aura une projection débat. Et puis pour clore cette semaine No Border, le samedi 22 octobre à 16h, un concert avec le groupe Sarajanova, musique malgache traditionnelle. En quelques mots, le groupe Sarajanova, ou Couleur de nuages, chante et met en musique des Enteni, la poésie traditionnelle transmise oralement de génération en génération. Structurée autour du duo formé par Roger Salomon et Marie Salomon, il se compose aujourd'hui de 4 musiciens et chanteurs évoluant sur des instruments traditionnels. Concert le samedi 22 octobre à 16h. Pour clore la programmation de ce mois d'octobre à Publico, le samedi 29 octobre à 16h30, concert Oiseau de passage de Fanchon d'Amers, et elle sera accompagnée par François-Yvan Duchesne. Toutes ces animations se tiendront à la librairie Publico, 145 rue Amelot, métro Oberkampf, République ou Fille du Calvaire. En allant sur le site de la librairie Publico, vous retrouvez toutes ces informations annoncées.
C'est moi là, sirotant mon vin, tombé de zénith en nadir. Moi qui me prétends écrivain, eh bien ce soir, j'ai rien à dire. Je jette une pièce à la patronne, et puis j'attrape ma veste en cuir. Un client fait « Bonne nuit, bossonne ». Je réponds rien, j'ai rien à dire. Et je dérive sur les trottoirs, les réverbères ont d'affreux rires. C'est fou ce que la nuit devient noire. Putain, quand on n'a rien à dire. Ce n'est pas à coup de silence que l'on se bâtit son empire. Tels sont les mots de ma conscience. Elle parle, et moi j'ai rien à dire. Comme un violeur prend position, je sors mon stylo pour écrire. Mais on ne viole pas l'inspiration. Non, rien à faire, j'ai rien à dire. Les rues défilent et j'accélère. je songe à me reconvertir. C'est navrant, mais de quoi j'ai l'air, moi, l'auteur qui n'a rien à dire. Et j'entends les étoiles qui causent, la poésie doit me maudire. Tant de sujets, de nobles causes, et moi, moi qui n'ai rien à dire. Je croise des feux, des McDonald's, cette nuit va-t-elle enfin finir? Et je songe à Scott Fitzgerald. Bordel, pourquoi j'ai rien à dire? Et je cours à travers la ville. Je cours pour m'étourdir, pour oublier l'état servile de celui qui n'a rien à dire. Oui, je cours à travers la ville. Je cours pour m'engloutir. Qu'elles sont cruelles et qu'elles sont viles, ces nuits où l'on n'a rien à dire. Ces nuits où l'on n'a rien à dire.
C'était un soir de juin, l'alcool avait tourné, Jésus s'en revenait, ivre du cabaret, jurant et blasphémant, maudissant le carême, on l'entendait gueuler jusqu'à Jérusalem. Il pensait à sa panse bien plus qu'au Saint-Esprit, et il cherchait un lit pour apaiser ses sens. Il titubait ainsi, plus sous qu'à Tibériade, quand tout à coup il vit ses quatre camarades. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, je vais vous présenter les quatre camarades de Jésus. Le premier, Simon Pierre. Le premier, Simon Pierre, était un vrai ivrogne qui passait tout son temps l'innommable charogne à écuer sa vinasse sur un banc du quorum, ne bougeant sa carcasse que pour mander l'aumône. Le second, un certain André. Le second incertain, André pour les intimes, eunuque de métier, passé pour le plus digne. Il racolait les hommes pour trois écus romains, du côté de Sodome, dans le quartier des Bains. Jacques et Jean, les deux frères, pala, 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 pala. Jacques et Jean, les deux frères, deux aimables macros, avaient mis au tripot leurs trois sœurs et leur mère. Les soirs de grands banquets, ils dénichaient des dames et allaient forniquer au temple d'Abraham. Ils étaient tous les quatre assis autour d'un banc, et ils gesticulaient comme de vieux forbans. Nos hommes étaient si saouls qu'ils se croyaient en mer. Tout autour de la terre semblait faire des remous. En avant, moussaillon, s'écriait le vieux Jacques, affrontant le plein fouet, l'écume et la bourrasque. Ah, moi le gouvernail, s'écriait son frère Jean, évitons la rocaille et filons droit devant. Il naviguait ainsi sur la terre bien ferme, quand tout à coup ils virent l'éclair d'une lanterne et Jean. Là-bas, il y a un mec qui marche sur l'eau. C'est beau. Oh les amis, un fantôme, s'écria le vieux Pierre, par le Deutéronome. Il marche sur la mer, mais non, bande de cons, ce n'est que moi Jésus. Vous êtes encore tous ronds, un bande de malotrus. Si c'est toi, cria Pierre, ordonne que je vienne. Eh bien. C'est profond, Jésus, là. Je vais me noyer, moi. Je marche sur la mer et défile et ressac, s'écria le bon Pierre. Mais d'un coup Simon Pierre eut envie de vomir. et ses jambes se mirent alors à flageoler. « Oh, si c'est toi, Jésus, je t'en prie, sauve-moi !» Et Jésus de répondre « Homme de peu de foi !» C'est pas fini. De 1000 ans de croisades, de sainte inquisition, de sang de dragonnades et de persécutions, de chasses aux sémites, de chasses aux albigeois, d'autodafés de rites barbares pour la foi. 2000 ans de croisades, de colonisation, de crimes en dragonnade et de persécutions, de massacres des juifs, de massacres des morts, de silences nazis, de massacres encore, 2000 ans de mensonges, de morale hypocrite, de châtiments sans nom, tout ça pour une cuite. 2000 ans de mensonges, de morale hypocrite, de châtiments sans nom, tout ça pour une cuite.